Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne, une émission proposée par Sabine Caz.
Où je reçois aujourd'hui Claire Lee à l'occasion de la publication de son dernier livre « Retour au Cambodge, le chemin de liberté d'une survivante des Khmers Rouges » paru aux éditions de l'Atelier. Claire Lee, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes née en 1946 à Battambang, dans le nord-ouest du Cambodge. D'une famille aisée, vous faites des études de philosophie, vous enseignez au lycée de Phnom Penh dès l'âge de 22 ans. En 1972, vous prenez la direction de l'Institut de Khmerisation de Phnom Penh. Vous êtes alors mariée, mère d'un petit garçon. En mars 1975, vous quittez votre maison pour vous réfugier chez vos parents avec votre fils. Vous ne reverrez plus votre mari et votre père. Ils sont assassinés, ainsi que vos deux frères et votre beau-père. Entre 1975 et 1979, vous êtes internée, enceinte d'une fille qui naîtra là-bas dans les camps des Khmers Rouges. Pour tout dire, et vous le dites, c'est l'enfer. Vous arrivez en France en 1980 à Alès avec vos enfants. Vous recevez le baptême de l'Église catholique en 1983. Vous avez alors 37 ans. Aujourd'hui, vous êtes chargée de cours à l'Institut de Sciences et de Théologie des Religions de Marseille. Vous donnez de nombreuses conférences. Vous êtes écrivain. Votre premier livre intitulé « Revenu de l'enfer » est paru aux éditions de l'Atelier l'année 2002. Le second, toujours aux éditions de l'Atelier « Retour au Cambodge » paru cette année 2007 et qui a obtenu le prix des libraires Siloé 2007. Et puis, vous publiez bientôt un livre pour les enfants. Après avoir pensé que vous quittiez le Cambodge sans retour, vous venez d'y retourner trois fois et c'est l'objet de votre livre « Retour au Cambodge ». Vous y êtes retourné en 2002, en 2003, en 2005. Ce retour, vous le dites vous-même, était en quelque sorte motivé par la peur. C'était la peur de quoi? Est-ce que vous l'avez traversé? Est-ce que vous l'avez dépassé?
Oui, le premier retour est vraiment marqué par la peur. C'est la peur d'un passé. D'un passé peut-être qu'on n'a pas complètement fait le deuil. D'un passé qu'on a essayé d'oublier, de mettre dans un coin de mémoire, de ne pas s'en occuper. Et peut-être aussi la peur des souvenirs, riches de joie. Et la peur de l'appel de ma culture d'origine. Qu'est-ce que cette culture va faire de moi? Arrivant en France en 1980, j'ai été très vexée, pour vous le dire. Vexée, c'est pas assez fort. J'ai été déstabilisée par le fait d'être obligée de quitter mon pays. J'ai vécu ça comme le Cambodge ne veut plus de moi, m'a mis dehors, et un pays qui m'a mis dehors m'a trahi. Comme une grande trahison, et une fois en France, j'ai essayé d'oublier cette trahison-là, et j'ai toujours dit que je choisis la France, France terre d'accueil, que la France sera mon pays tout court. Mais la peur de retourner, c'est de regarder, de réfléchir, de voir est-ce que la France est vraiment mon pays. C'est ça la peur identitaire, la peur d'une perte identitaire, c'est-à-dire la peur d'une coupure dans cette identité. Finalement, qui suis-je? Une Cambodgienne, une immigrée, une Française, mais où se trouve cette identité-là?
Alors cette peur que vous avez donc traversée, comment vous avez vécu ces trois voyages, ces trois retours, dans une articulation entre la mémoire des jours heureux, parce que vous avez été heureuse au Cambodge, la mémoire des jours d'enfer, vous êtes allée à la rencontre des uns et des autres, vous avez revu votre maison avec cette dimension de dépouillement, parce que cette maison, vous en avez été chassée, et puis aujourd'hui elle est occupée par d'autres. Vous avez dû vivre tout ça dans une sorte de recherche sans doute de sérénité, de mémoire, d'identité. On reviendra sur l'identité entre la jeune fille bouddhique qui a quitté le Cambodge et la femme chrétienne que vous êtes devenue, et vous aurez l'occasion de nous dire que vous n'avez pas quitté complètement cette origine bouddhique. Qu'est-ce que vous avez trouvé? Est-ce que vous avez trouvé l'apaisement? Est-ce que vous avez moins peur? Est-ce que vous n'avez plus peur?
Alors, je crois que cette peur-là, c'est une peur d'être. Et cette peur-là est vissée en moi. Et pour vraiment conjuguer cette peur, il faut s'y plonger dedans, aller dedans. Le premier voyage, ça a été très difficile parce que lors de ce premier voyage, je me protégeais beaucoup. C'est-à-dire que je n'essaie pas, j'essaie de barrer la route à toute mémoire, mémoire joyeuse, mémoire douloureuse, que ces mémoires-là ne viennent pas me perturber. C'était comme si j'essayais de construire une bulle à moi. Ça, c'était le premier voyage. Et ce premier voyage, c'était l'opportunité qu'on m'avait invité. Ça n'est jamais été dans mon programme jusqu'en 2002 d'y retourner. Mais après ce premier contact, j'ai réalisé que vraiment, je ne pourrais pas continuer ma route, construire ma vie de femme dans l'harmonie. Vous voyez, je parle de l'harmonie, je suis asiatique. C'est la valeur principale de l'Asie. Ce n'est pas la justice ni la liberté, nous, en Asie. C'est l'harmonie. Vie harmonieusement avec soi-même. Je pense pas des autres, mais qu'avec moi-même. Et pour retrouver cette harmonie, je dois y retourner. Y retourner dans le deuxième voyage, c'est comme une quête. Une quête identitaire. Et pour conjurer un peu cette peur, je suis retournée dans le deuxième voyage avec ma fille. Avec ma fille, j'ai pensé que ma fille, qui est arrivée toute petite en France, elle est donc baignée dans cette culture française, ce cartésianisme, qui permet d'analyser les choses et que ma fille va sûrement m'aider à tenir la route dans cette quête. Donc, deuxième voyage, troisième voyage, depuis je retourne chaque année, quatrième voyage, 2007 déjà. Mais je ne peux pas dire que je n'ai plus peur. La peur est toujours là. La peur est toujours là parce que cette peur d'être et chaque chose, chaque retour, c'est toujours une nouveauté. Et comment je vais affronter la nouveauté? C'est cela. Et c'est cette quête, c'est comme un chemin qui s'ouvre. Et sur ce chemin-là, vous marchez. Vous marchez parce que vous n'avez pas d'autre solution que de marcher. Si je m'assois, ce sera terminé. Donc, il faut marcher. Mais marcher avec une espérance vissée au corps. Et ça, c'est une grâce. Ce que j'ai pas prévu. C'est-à-dire que dans cette peur-là, il y a une espérance qui m'a accompagnée.
Vous, finalement, vous avez traversé cette peur avec... vous avez accepté de souffrir et en même temps, la souffrance ne vous a pas effondré et en même temps, vous êtes le témoin qu'on peut pendant 20 ans... Finalement, vous aviez moins peur pendant 20 ans qu'au moment où vous avez pris la décision à la faveur finalement de circonstances, de repartir au Cambodge. Donc, on peut mettre de côté le passé, mais à un moment, il est là et il faut s'en occuper.
Oui, le passé revient. Le passé revient parce que on ne peut pas tirer un trait sur notre passé. On nous ment si on nous dit qu'on peut oublier le passé. Le passé nous rattrape toujours. Et c'est cette peur du passé qui souvent nous taraude. Et la façon, c'est de se mettre en confrontation avec ce passé. Et laisser le passé revenir en nous, nous irriguer comme une marée, comme une eau. Qui va nous irriguer. Et le passé, quand il revient, il n'y a pas que la souffrance. Parce que notre vie est faite de joie et de souffrance. Et le passé revient vraiment quand nous acceptons que la joie revient comme des moments difficiles, des moments douloureux. Donc, il faut accepter les deux. Ça fait partie de la vie. La joie et la douleur et la souffrance. Mais ce qu'il faut dire que dans toute quête, il y a toujours des difficultés. Il ne faut pas penser qu'on peut faire une quête identitaire comme si nous roulons sur l'autoroute. Non, c'est un chemin escapé où il y a beaucoup de pièges.
On va s'arrêter quelques instants, Claire Lee, et on reviendra justement sur ce chemin si difficile, ce chemin difficile et en même temps nécessaire que vous avez entamé et que vous poursuivez, qui n'est pas terminé. Je pense que vous ne considérez pas vous-même qu'il est terminé. Je rappelle le livre dont nous parlons, Retour au Cambodge, le chemin de liberté d'une survivante des Khmer Rouges. C'est publié aux éditions de l'Atelier. C'est un livre qui a obtenu le prix des libraires Sihltoe 2007 et qui fait suite au livre où vous avez raconté vos 4 ans dans les camps des Khmer Rouges et qui s'intitulait Revenu de l'enfer, également aux éditions de l'Atelier. Claire Lee, on s'arrête quelques instants.
Présence pour aimer.
Descend vers la mer, où la montagne arrête les yeux et le cœur. Sur cette terre aride, où l'on respire la garrigue et tous les parfums du romarin. Sur cette terre magique des Qatars, la vigne de mon père. Je leur ai donné ma terre et le pain et le vin. Ils ont reçu la lumière et la vigne de mon père. Je l'ai parcouru cette terre aux mille couleurs. Partout ailleurs, j'ai compris pourquoi le Seigneur du temps s'en était allé au monde des oliviers. Je leur ai donné ma terre et le pain et le vin. Ils ont reçu la lumière et la vigne de mon la mer, le vent du sud emporte avec lui toutes les odeurs de la terre et un peu de nous au passage. Et le vent bouge les vagues et il use les pierres sans jamais nous quitter tout au long des saisons. Sur cette terre gorgée de soleil, j'ai cueilli le raisin de mon père. Sur cette terre qui descend vers la mer, j'ai taillé la vigne de mon père. Je leur ai donné ma terre et le pain et le vin. Ils ont reçu la lumière et la vigne de mon père. Je leur ai donné la terre et le pain et le vin. Ils ont reçu la lumière et la vigne de mon père. Je leur ai donné la terre et le pain et le vin.
La vigne de mon père Chantal Eden sur votre radio. On retrouve votre magazine, le magazine de Sabine Caz.
Vivante Église.
Où je reçois Claire Lee qui vient de publier un deuxième livre, Retour au Cambodge, le chemin de liberté d'une survivante des Khmers Rouges. Vous aviez, Claire Lee, publié un premier livre l'année 2002 sur les 4 ans que vous aviez passés dans les camps Khmers Rouges. Ce livre était intitulé Revenu de l'enfer. Je signale que votre livre, le second Retour au Cambodge, a obtenu le prix des libraires Siloé 2007 et que vous êtes dans notre région parce que vous avez donné une conférence à Koh Sad dans le Tarn-et-Garonne hier soir et que vous en donnez une ce soir à 20h30 à Notre-Dame de la Paix à Montauban sur le thème « Saisi par le Christ au cœur du bouddhisme ». Alors nous reviendrons sur cette bouddhiste qui est devenue chrétienne. C'était à l'âge de 37 ans, vous étiez en France depuis une dizaine d'années lorsque vous avez reçu le baptême dans l'Église catholique. Aujourd'hui, vous nous parlez de ces trois voyages que vous avez fait au Cambodge, votre terre d'origine. Comment est-ce que vous avez travaillé pour partager cette expérience, une expérience de communication où vous parlez en même temps beaucoup du silence, parce que dans votre livre Retour au Cambodge, où vous racontez les 3 voyages que vous avez fait au Cambodge ces dernières années, alors que vous n'y étiez pas retourné pendant 20 ans, à la fois vous racontez ces voyages, la façon dont vous les avez vécus, les lieux que vous avez traversés, ce que vous avez éprouvé, cette peur que vous aviez, puis que peu à peu s'apprivoise, et en même temps vous dites aussi beaucoup qu'il y a des situations qui nécessitent du silence. Comment vous travaillez entre cette parole public, les livres, c'est pour être lus et entendus, les conférences, c'est pour être entendues, et puis ce silence aussi qui vous habite et où de temps en temps vous avez le sentiment que c'est la seule parole possible.
Oui, aujourd'hui, je dis toujours que je suis une chrétienne catholique, mais venue du bouddhisme. Donc le bouddhisme a été pour moi la première voie spirituelle. J'ai été structurée comme femme, pas le bouddhisme, pas l'enseignement de mon père. Et dans le bouddhisme, le silence est omniprésent. Parce que nos mots trop humains peuvent déformer une réalité qui dépasse la réalité matérielle ou la réalité que nous touchons maintenant. Il y a une autre réalité que nos mots ne pouvaient pas tout dire. Et le deuxième livre que vous avez cité, Retour au Cambodge, va essayer de mettre des mots sur ce qui est au-delà des mots. Alors, vous voyez, j'ai reçu le baptême en 1983. J'ai attendu 24 ans pour pouvoir mettre sur place publique ce qui se passe en moi. Ce qui se passe en moi, c'est comme il y a un dialogue entre deux cultures. Ma culture d'origine, qui est la culture asiatique du Cambodge, bien colorée par le bouddhisme, et la culture de mon pays d'accueil, la culture de la France, la culture qui est bien structurée aussi par le christianisme. Donc, entre ces deux cultures, il y a comme un espace en moi. Et cet espace-là, justement, c'est l'espace de silence. Qu'il fallait pas combler trop vite. Il faut qu'il garde un espace de silence entre deux cultures pour que les deux cultures puissent s'échanger, puissent se dire des mots. Parce que, comment vous dire, nous parlons beaucoup de dialogue en France. Moi, je travaille à l'ISTR de Marseille. C'est notre pain quotidien, j'allais dire, parce que vous savez, Marseille est très cosmopolite, dont nous parlons beaucoup de dialogue. Alors là, la culture occidentale, la culture française que j'ai en moi, va me dire que dialoguer, c'est mettre des mots, c'est essayer de te faire comprendre, c'est de faire un discours, c'est d'écrire un topo, j'allais dire. Mais l'asiatique, la cambodgienne, va me murmurer que le silence était nécessaire. Parce que c'est dans ce silence-là que tu vas trouver les mots justes pour le dire. Et chaque mot doit être habité par ce silence-là. C'est paradoxal. J'ai attendu 24 ans pour écrire ce dialogue, j'allais vous dire, entre le silence et les bruits occidentaux. Voilà. Donc, 24 ans, il faut vraiment beaucoup de temps. Et encore aujourd'hui, je ne suis pas si sereine que ça de parler de cela, parce que j'en suis consciente que mes mots sont toujours en deçà de ce que je vis. Et j'essaie toujours d'amener ceux qui m'écoutent à entrer, par le silence ou pas, un peu d'humour sur ce qu'est vraiment l'univers d'une femme qui est déchirée entre deux cultures et comment cette déchirure-là se transforme, j'allais dire, se transforme en harmonie et non pas en rupture définitive. Et cette rupture définitive qui fait que beaucoup d'immigrés se construisent un communautarisme pur et dur. Parce qu'il y a une rupture, il y a une souffrance. Et on rêve de reconstruire quelque chose qu'on a perdu. Mais non, une quête d'identité nous demande d'accepter cette rupture-là. D'accepter d'être décentré tout le temps par notre culture d'origine et par la culture d'accueil. Et c'est ce décentrement qui est très difficile.
Et sur lequel il faut demeurer, il s'agit pas, parce que la tentation sans doute c'est de prendre tout de l'un et de rejeter l'autre, ou le contraire, et il semble que vous parlez d'une sorte de ligne de crête particulièrement inconfortable, sans doute douloureuse, mais sans doute aussi créatrice, où vous demeurez dans une sorte de fidélité aux deux qui semble de l'extérieur impossible et intenable.
Oui, c'est cela même. Vous parlez de la création. Bon, la chrétienne catholique aujourd'hui va comprendre que moi, Claire Lee, actuellement, je suis co-créatrice avec ce Dieu. Mais qu'est-ce que je crée? Mais le plus beau, c'est ma vie que je crée. Et dans cette création de notre vie, de chaque jour, on doit toujours laisser un champ d'écoute. Il n'y a pas d'écoute possible s'il n'y a pas de silence. Et on glisse très vite. Des fois, j'entends beaucoup mes amis immigrés dire que nous avons une chance de pouvoir choisir entre deux cultures. Je dis, c'est un peu trop vite dit, cela. Ce n'est pas une chance, c'est une rupture. Et c'est une rupture, et qui dit rupture dit souffrance. Et qui dit rupture dit aussi un travail de deuil. Donc, c'est pas une chance, c'est une rupture. Et qu'est-ce que je fais de cette rupture-là? J'ai toujours dit qu'il faut bien marquer, en tant que personne déplacée, telle que moi, qu'il y a un fossé qui s'est creusé entre deux cultures. Et ne cherchons pas trop vite à combler cette déchirure-là, ce fossé-là. Il faut regarder la séparation pour pouvoir construire le pont. Si on comble trop vite en disant c'est une chance, soit on bascule dans l'oubli total de la culture d'origine, et alors c'est un oubli qui est dommageable, parce que actuellement dans la mondialisation, nous sommes dans le dialogue des cultures si nous voulons éviter le choc culturel. Alors qui c'est qui peut, les premiers à pouvoir faire ce dialogue, ce sont les gens déplacés, justement. Et ensuite, si on comble trop vite, on peut basculer aussi vers le communautarisme, de tourner le dos complètement à la culture d'accueil. Là aussi, c'est un danger pour soi-même avant d'être pour quelqu'un d'autre. parce qu'un danger pour soi-même, parce qu'on est en train, si on vit en France, et construit un communautarisme selon la culture cambodgienne khmer que nous avions connue il y avait une vingtaine ou une trentaine d'années, mais la culture c'est quelque chose de vivant, et la culture au Cambodge actuellement, elle a avancé. Et la culture que nous construisons dans notre communautarisme, ce sera une culture mortifère. Et c'est nous qui souffrons les premiers. Voilà, c'est une illusion, j'allais dire une illusion qui est très déstabilisante. Beaucoup d'immigrés, quand ils retournent dans leur pays d'origine,
ne retrouvent plus
ce qu'ils ont essayé de reconstruire en France, ailleurs. Ouais. Parce que c'est impossible de faire un îlot comme ça.
On s'arrête quelques instants, Claire Lee, et on reviendra à la faveur de votre expérience et de la réflexion que vous menez sur elle, sur quelques pistes peut-être que vous pouvez nous donner concernant ce dialogue interreligieux dont on parle beaucoup et sur lequel vous avez sans doute une opinion pertinente. On s'arrête quelques instants.
Présence.
Au-dedans de moi, ta lumière, au-dedans de moi, ta rivière, au-dedans de moi, ta Ika, au-dedans de moi, ô mon cœur, au-dedans de moi, au-dedans de moi, amoureux, au-dedans de moi, de tes grands yeux. Au-dedans de moi, tes pensées, au-dedans de moi, ta beauté, au-dedans de moi. Devant l'univers, attendri, pourront la campagne, ami, tout à la sueur de nos nuits, revoilà les jours. Au-dedans de moi, de mon mieux, au-dedans de moi, petit Dieu, au-dedans de moi, ta fontaine, au-dedans de moi, tes merveilles, au-dedans de moi, au-dedans de moi, le plaisir, au-dedans de moi. Au-dedans de moi, le velours, au-dedans de moi, ton amour, au-dedans de moi, dessous tes habits, le rubis, dessous le timon, ton nom, par le chemin creux, ta fontaine.
Jean-Louis Murat sur Présence, au-dedans de moi. Allez, on retrouve la seconde partie de votre magazine.
Vivante Église.
Claire Lee, je rappelle que nous parlons de votre dernier livre, Retour au Cambodge, le chemin de liberté d'une survivante des Khmers Rouges, que vous avez publié aux éditions de l'Atelier récemment et qui a obtenu le prix des libraires Siloé 2007. Je signale que vous donnez ce soir à Montauban, à Notre-Dame de la Paix, à 20h30, une conférence sur le thème « Saisie par le Christ au cœur du bouddhisme ». On revient peut-être sur cette question du dialogue interreligieux qui occupe beaucoup aujourd'hui les esprits, sur lequel l'Église catholique a vraiment le souci d'être présente. Votre identité personnelle bouddhique, convertie au christianisme à l'âge de 37 ans, votre travail à l'Institut de sciences et de théologie des religions à Marseille, votre réflexion et vos livres disent assez que ce sont des questions sur lesquelles vous réfléchissez. Vous y réfléchissez d'abord pour vous-même, parce que vous parlez aujourd'hui d'une hospitalité réciproque à l'intérieur de vous-même entre la bouddhiste que vous restez et la chrétienne que vous êtes. C'est ce dialogue interreligieux. Comment est-ce que vous l'abordez? Quelles sont peut-être quelques pistes que vous avez compris qu'il est nécessaire de baliser et de prendre avec prudence, avec temps, avec respect, pour pouvoir vivre le dialogue interreligieux?
Alors souvent je dis avec beaucoup d'humour que le dialogue interreligieux est à la mode, et il nous arrive, nous autres les femmes, de vivre des dialogues interreligieux comme une grande réunion de famille, et où chacun évite soigneusement d'aborder les sujets qui fâchent.
Et alors, oui, c'est une manière.
C'est une manière d'accueillir l'autre, mais fais attention, on ne touche pas à ceci, on ne touche pas à cela. Est-ce qu'il y a vraiment dialogue dans ces cas-là? Je pense que le vrai dialogue, c'est un dialogue de vie, avant d'être un dialogue de concept intellectuel. C'est un dialogue de vie, et c'est un dialogue qui demande du temps, qui demande la confiance, qui demande d'apprivoiser un peu l'autre et de se laisser aussi apprivoiser par l'autre. Personnellement, ce qui se passe en moi, je l'appelle ça un dialogue interreligieux. J'appelle plutôt que c'est un dialogue intra-religieux. Le mot intra. Alors, intra-religieux, c'est pas un mot qui vient de moi, mais c'est un mot d'un prêtre catholique, il faut le dire, le père Raymond Panica, qui est décédé. Donc, lui, il porte vraiment deux cultures en lui. Son père était hindou et sa mère chrétienne catholique. Donc, le dialogue intra-religieux, c'est un dialogue de cœur à cœur. De cœur à cœur. C'est quand deux grandes voies spirituelles, je parle bien de la voie, je n'aime pas trop le mot religion. Vous savez, je viens de l'Asie, nous on parle pas de religion en Asie. On parle beaucoup de la voie, V-O-I-E, ben, la voie du Bouddha, la voie de Jésus-Christ, la voie de Mohammed. Bon, et nous savons aussi que les premiers chrétiens dans les Actes des Apôtres parlaient de la voie. Donc quand on porte ces deux voies spirituelles en soi, il y a donc un dialogue permanent. Un dialogue permanent, ce n'est pas du syncrétisme facile, mais c'est un dialogue. Et pour que ce dialogue puisse s'établir, il faudrait qu'on connaisse bien les devoirs. Oui. Moi, j'étais bouddhiste, mais j'étais une bouddhiste de conviction, non pas seulement une bouddhiste de tradition ou de culture, comme si le bouddhisme c'est pas seulement l'héritage de mes parents, mais c'était une voie de recherche pour moi quand je travaillais avant 1975. Et quand j'arrive dans la foi chrétienne, j'ai toujours fait beaucoup, j'ai eu la chance de tomber avec des théologiens à Marseille, donc ils m'ont toujours poussé à aller chercher. Donc il faut bien une connaissance des deux voies pour que ce dialogue puisse s'établir. Et ce dialogue n'est pas si facile que cela.
D'ailleurs, il y a un moment, vous l'évoquez dans votre livre Retour au Cambodge, vous dites j'avais peur étant devenue chrétienne que la re-rencontre.
J'ai peur de l'eau bouddhiste, j'allais dire.
Voilà.
Que l'eau bouddhiste vienne se mélanger avec l'eau chrétienne catholique en moi. Vous savez, je parlais d'une grotte. Mais ça, il faudrait dire que toute religion, comme nous disons en Occident, toute religion se ferme sur elle-même. C'est dire que pour un adepte d'une religion, c'est toujours la religion, la voie qu'il a choisie, qui est la meilleure. Vous voyez? Donc on se ferme. On se ferme plus ou moins et on a peur de l'autre. On a peur de l'autre. Moi, on m'a dit que, en France, qu'on ne pourrait pas être en même temps deux, chrétiennes et catholiques et bouddhistes, chrétiennes, catholiques et bouddhistes en même temps, je suis d'accord. Je ne suis pas une chrétienne, catholique et bouddhiste. Mais ça n'empêche que je suis une chrétienne catholique venue du bouddhisme. Nuance. Oui. Ça veut dire que j'ai pas fait table rase de la tradition bouddhique. Et cela se passe, c'est-à-dire que dans la foi chrétienne est d'abord accueil pour moi. Et ça, j'ai mis du temps à comprendre. J'ai mis du temps à comprendre. C'est au bout du deuxième voyage que j'ai compris ça. Que la chrétienne catholique en moi va accueillir mon histoire. Va accueillir mon histoire, mais n'oublions pas que quand nous lisons l'évangile, Jésus-Christ nous donne toujours rendez-vous en Galilée à ses disciples. Et la Galilée, c'est le carrefour des nations. Et pour moi, je ne peux pas rencontrer le ressuscité si je n'assume pas tout mon passé. Je ne peux pas aller vers Jésus-Christ avec une vie, comment vous dire, séparée. J'offre tout, ma vie entière. C'est une offrande de cette vie. Donc, c'est une harmonie. Et j'ai appris que c'est cette chrétienne catholique-là, mais c'est très beau de prendre conscience de ça, qui va tendre les mains à la bouddhiste que j'étais. Et alors, la bouddhiste va venir parler. Je vais laisser résonner en moi tout l'enseignement du Bouddha. Et l'enseignement du Bouddha va interroger ma foi chrétienne et cela va m'aider à m'ajuster chaque instant à ce que c'est que le visage de mon Seigneur, Jésus le Christ. Oui. C'est comme un ajustement perpétuel et ça ne peut se faire que quand il y a des éléments extérieurs qui nous provoquent. Il faut nous laisser provoquer.
Et donc votre culture bouddhique aujourd'hui, étant donné que c'est votre histoire, oui, contribue à construire peu à peu la chrétienne que vous êtes.
Oui, c'est ça. C'est exactement, j'ai donné l'image, c'est comme sur le chemin d'Emmaüs. Oui, sur le chemin d'Emmaüs, Cléophas va bien partir avec un compagnon. Et là, on échange. Mais moi, je fais pareil avec la bouddhiste. J'échange non pas que ce que c'est que la vie de la foi, mais toute ma vie de femme. Parce que la foi n'est pas coupée de notre vie. Tous les problèmes de notre vie, j'échange avec la bouddhiste. La bouddhiste partage aussi avec moi sur tout ce qui est les grands problèmes de mon pays actuellement. Le tribunal pénal international, où en sommes-nous? Le pardon, où en sommes-nous? Et la guérison du peuple Khmer, où en sommes-nous? Et le travail de mémoire, où en sommes-nous? Et là, il y a la voix de la bouddhiste et la voix de la chrétienne catholique aujourd'hui. Et cette voie-là, quand on échange vraiment en vérité, la chrétienne catholique va sentir son cœur et va dire que comme les deux disciples d'Emmaüs, que son cœur est brûlant. Mais une échange en vérité, ça va aussi remuer la bouddhiste. Mais la bouddhiste, elle ne va pas dire que son cœur est brûlant, parce que ça, c'est un langage chrétien, c'est un langage occidental. La bouddhiste, elle va dire: mes entrailles ont été remuées. Parce que nous, on parle pas beaucoup de cœur en Asie, on parle des entrailles. J'ai donné un exemple hier soir à ma conférence que dans mon pays natal, le Cambodge, quand on aime vraiment quelqu'un, on ne dit pas que tu es mon cœur. Non. On dit que tu es mon foie et mon fiel. Vous voyez, on parle des entrailles. Mais j'en suis sûre que dans ce dialogue-là, la bouddhiste aussi a été remuée. Et il se passe comme si toutes les deux nous touchons à quelque chose d'indicible, que aucun mot ne peut le dire vraiment. Alors j'aime bien un philosophe qui parle de ses expériences, qui se trouve à Montpellier, quand il dit que quand la vie nous touche vraiment, on ne peut plus vraiment raisonner. Quand on raisonne, la vie est déjà passée. Et dans ce dialogue-là, comme si la vie nous submerge, une vie nouvelle. Et cette vie que la chrétienne catholique reçoit de son Seigneur, qui renouvelle. Et la bouddhiste, comment elle vit ça, j'en sais rien, mais je sais qu'elle a été remuée aussi. Voilà. Donc, il fallait respecter le silence de la bouddhiste.
On s'arrête quelques instants, Claire Lee.
Présence.
Tina Arena sur Présence pour oser parler d'amour. Allez, on retrouve Vivante Église.
Claire Lee, aujourd'hui, après être retournée au Cambodge, 20 ans après l'avoir quittée, et étant passée 4 ans dans les camps des Khmers Rouges, ayant perdu la majorité de votre famille au Cambodge, assassinée par les Khmers Rouges, aujourd'hui, la bouddhiste que vous êtes restée, la chrétienne catholique que vous êtes devenue, et sans haine, sans aigreur, sans... Vous n'êtes pas retourné au Cambodge, vous êtes retourné pour une quête personnelle de mémoire, de passé, d'identité. Vous n'êtes pas retourné au Cambodge pour récupérer vos biens qui sont aujourd'hui, votre maison est habitée par d'autres, vous l'avez visitée. Vous n'êtes pas non plus parti pour réclamer la justice ou réclamer des comptes. Vous avez une sérénité, une absence de haine qu'on peut trouver étonnante.
Oui, personnellement, je pense que cette sérénité est une grâce du Seigneur, parce que je m'attendais pas à être aussi sereine en revisitant ma maison. Mais quand on parle de sérénité, là, encore une fois, c'est pas une sérénité où il n'y a pas de souffrance. La souffrance est au cœur, quand même. Mais ça me permet de réaliser, par cette grâce du Seigneur, que je ne suis pas la seule à souffrir. Il y avait eu 2 millions de morts au Cambodge. Et ça, c'est comme, je crois que c'est ça ma foi en Jésus-Christ. Ça m'a permis de voir que mon histoire personnelle fait partie de la grande histoire. Et ça ne servait à rien de toujours se tourner vers soi-même et de crier toujours moi, moi, moi et moi. Mais mon pays, qu'est-ce qu'il est devenu? Et les autres? J'ai même rencontré les anciens Khmer Rouges au Cambodge. Alors, ça m'amène à dire que, quelque part, le mal a fait un ravage extraordinaire. Pour moi, comme pour mes compatriotes, qui n'en sont pas encore sortis. Et au mois de janvier 2007, cette année, j'ai été invitée par le Conseil de l'Europe à aller faire un colloque à l'Université Royale de Phnom Penh, où je dois expliquer aux jeunes, à ces étudiants, sont beaucoup de jeunes qui sont nés après et qui ne connaissaient pas vraiment leur histoire. Et beaucoup de jeunes posaient cette question, comment cela a été possible? Comment vous vous êtes laissé faire? Alors, ce qui revenait à moi dans ce colloque, c'est de faire l'analyse entre l'idéologie Khmer Rouge et le bouddhisme. Comment les Khmer Rouges ont instrumentalisé, ont utilisé les concepts bouddhiques pour aller à leur fin. Donc, j'ai fait cette analyse, mais ce qui m'a beaucoup touchée, c'est pour ça que j'en parle, nous sommes dans la sérénité. C'est que quand on m'a présenté à ce colloque, on a dit que voilà, Claire Lee, elle est chrétienne catholique, elle a quitté le bouddhisme lors de cet enfer Khmer Rouge. Et j'avais devant moi une vingtaine de bonzes qui fait partie de l'Institut bouddhique de Phnom Penh. Vous devinez qu'ils n'étaient pas vraiment contents de cette présentation-là. Ils devraient se poser la question, qu'est-ce que j'ai à dire du bouddhisme? Mais après mon intervention, il y a tout l'après-midi des réponses à des questions aux jeunes qui posent des questions. Il y a beaucoup de questions qui attaquaient le bouddhisme. Bon. J'essaie d'expliquer et en leur disant que le bouddhisme reste la tradition du Cambodge. Parce que 95% des Khmers se disent bouddhistes, donc on ne peut pas faire table rase de cela, et que le bouddhisme n'est pas la seule religion qui a été instrumentalisée par le totalitarisme. Le christianisme a aussi quelque chose à en dire là-dessus. Mais c'est ce qui m'a fait toucher quelque chose de vraiment grand, c'est que à la fin de mes questions, un bonze a demandé le micro et il s'est levé et il m'a dit qu'il remercie beaucoup mon honnêteté intellectuelle, que j'ai quitté la voie, mais je n'ai pas profité pour leur jeter des pierres. Et que en son nom propre et au nom de tous ses frères bonzes, là, dans ce colloque, il appelle sur moi la bénédiction du Bouddha. La chrétienne catholique est là, debout devant ce bonze, reçoit la bénédiction d'une autre tradition. Mais c'est cet instant même que je me sentais si disciple de ce Christ universel. c'est comme si quelque chose s'est passé. Je me sentais pas bouddhiste du tout, mais je me sentais chrétienne, disciple de Saint Jésus-Christ, et que nous avons affaire à travailler avec beaucoup de sérénité avec les bouddhistes pour reconstruire l'homme, pour reconstruire l'humain qui a été mis par terre au Cambodge. Voilà. Et je crois que c'est ce regard qui s'élargit, qui ne se concentre plus que sur mon histoire propre et qui me fait réaliser que notre histoire personnelle, chaque histoire personnelle est toujours insérée dans la grande histoire et que il fallait élargir ce regard-là. Je crois que c'est la grâce qui m'a donné cette sérénité de pouvoir regarder avec beaucoup de distance, j'allais dire distance, ce qui s'est passé, ce qui s'était passé et ce qui va se passer et ce qui est actuellement au Cambodge. Voilà, si vous appelez ça la sérénité.
Je rappelle, Claire Lee, votre livre « Retour au Cambodge, le chemin de liberté d'une survivante des Khmers Rouges » publié aux éditions de l'Atelier et qui a obtenu le prix des libraires Siloé 2007. Vous aviez publié en 2002 « Revenu de l'enfer, 4 ans dans les camps Khmers Rouges » et vous allez publier à la fin du mois un livre pour les enfants. « Quelques mots, Kossal et Moni » s'est publié aux éditions Siloé. Quelques mots rapidement sur ce livre.
Ce livre a pour la prétention de présenter aux enfants français, mon pays, deuxième pays, mon pays d'accueil, comment les enfants cambodgiens peuvent vivre leur citoyenneté après une telle déchirure et dans une grande pauvreté.
C'est pour quel âge?
C'est à partir de 10 ans.
C'est donc Kossal et Moni avec des illustrations de Gwenaël Toumine. C'est écrit donc par vous-même, Claire Lee, et c'est publié aux éditions Siloé.
Voilà, merci.
Voilà, vous êtes ce soir, je le rappelle, à Montauban, à Notre-Dame de la Paix, à 20h30 pour une conférence publique. Merci donc. Demain, nous parlerons de Charles de Foucault à l'occasion d'un spectacle des Petites Sœurs de Jésus sur le bienheureux Charles de Foucault. Ce magazine Vivante Église était réalisé par Francky Guéret et produit par Sabine Caz.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00 ou écrivez-nous par mail à contact@radioprésence.com.